Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue sur la Dartosphère pour le service après-vente de la Formule 1, le podcast d'après Grand Prix qui sent fortement la bricole et parfois la picole.
Picole.
Ah voilà, ça c'est une petite dédicace pour Shinji, qui regrettait la semaine dernière que ça soit pas dans le discours de début.
Et bah ça... picole.
Hein?
Pourquoi il picole?
Bah Shinji, le pauvre, il faut le voir, ça.
Je trouvais que c'était pas bien parce que justement, on ne picole pas.
Ouais, elle parle pour toi. Donc, après une première manche enthousiasmante, le grand cycle de la Formule 1 s'installait en Malaisie pour une épreuve qui s'annonçait comme pluvieuse, et elle l'aura été, même si pour une fois, ça n'est pas par la pluie que le spectacle aura été apporté. Alors, après la victoire méritée de Button à Melbourne et les contre-performances des équipes de pointe comme McLaren, Renault et Ferrari, le Grand Prix de Malaisie, premier Grand Prix, on peut dire typique de la saison, a-t-il confirmé la tendance ou a-t-il encore plus brouillé les cartes? Réponse tout de suite avec mes deux acolytes. Bonjour Shinji, bonjour Enzo.
Bonjour.
Et bonjour à toutes les cloches de Pâques qui nous écoutent.
Et voilà, bonjour Enzo. Ça, j'ai été obligé de te la renvoyer, je suis désolé là. C'est...
dire que justement, il y en avait déjà trois de moins.
Oh. Tout de suite, tu mets Shinji dans l'eau, c'est pas sympa. Je trouve ça petit et bas et... bien un truc de golfeur.
Ouais.
Bon, on va arrêter ces attaques. Sinon, on peut quand même parler de la belle sixième place de Tiger Woods au Master. Tu vas à Augusta ce week-end.
Ouais. Ouais, t'as raison, c'est chiant, parlons de F1.
Ok, alors, au sommaire de cette émission, comme d'habitude, c'est la deuxième émission seulement, un résumé de la demi-course qu'on a eu le droit, avec les petits chiffres de notre Jean-Louis Moncé à nous. Salut Jean-Louis, j'écoute.
Et j'ai plus de cheveux.
C'est vrai.
Pour l'instant.
Ah oui, là je confirme. Ah, c'est la soirée de la vanne ce soir. On fera également un retour sur les polémiques du week-end, notamment avec ce qu'on avait un peu amorcé la semaine dernière et qu'on avait un petit peu écarté, je sais pas pourquoi d'ailleurs, les suites de l'affaire Hamilton. L'affaire prend un peu plus d'ampleur et puis on aura le temps, je pense sans doute, de s'éterniser un petit peu comme l'a fait la Fédération internationale de l'automobile sur les 52 minutes d'attente avant d'annoncer la fin de la course. On ne manquera pas de faire notre rubrique Drive-Thru, où chacun de nous délivrera ses cartons rouges. Non mais c'est quoi cette manière là de critiquer mon accent anglais?
Ah non mais je suis en forme aujourd'hui.
Ah mais...
ça va pas durer 2 heures sans m'en dire.
Ah mais je vois ça. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on aura d'autre?
Vous n'avez pas 3 heures devant vous, arrêtez tout de suite d'écouter.
Donc la semaine dernière, on avait aussi désigné les moments de la course. D'ailleurs, je vais tout de suite donner les résultats du sondage pour ceux qui n'iraient pas sur le blog, et je ne vise personne. Donc la question, c'était quelle est selon vous l'action de la course à Melbourne? Vous aviez le choix entre le câlin entre Vettel et Kubica à quelques tours de la fin, le départ des pilotes Ferrari et la pirouette tout seul de Piquet. Bien évidemment, c'est le câlin Vettel-Kubica qui l'emporte avec 78% des 23 suffrages qu'on a reçus.
Ouais.
Le départ des pilotes Ferrari réalise un petit score de 17%.
Ouais.
Et la pirouette de Piquet ne requiert que la voix de Enzo avec 4%.
C'est quoi?
T'as même pas voté pour
c'est
lui.
Complètement pourri et je vais demander à tous mes potes de voter pour moi. Je vais détruire ces sondages.
Donc cette semaine, on ne votera pas sur le mouvement de la course, mais on votera plutôt sur le pilote de la course. Parce que je pense que c'est une course qui, par son contexte, etc., a davantage mis en avant les pilotes. Donc je pense qu'on pourra revenir sur les pilotes de la course. Ça vous va?
Ça me va.
Ouais.
Puis ben on finira pour par un petit avant-goût de la Chine.
Minuit et demi, 1h du matin.
Voilà, parce qu'il est 22h52 chez nous. Hein?
Non, c'est pas vrai.
En fait, il est 15h. Cette émission va durer 15h. Donc, on commence avec les qualifications. Oui, Yannick, maître absolu de l'univers. Oui, on commence avec les qualifications.
Mais allez-y, allez-y.
Oh la vache.
Oh, je vais les faire.
Tu l'as fait à la Denis Brogniart.
Moi, on m'a jamais demandé de faire des qualifs ou des trucs comme ça. Hein. C'est
mais, ah, alors, tiens, Enzo, tu nous fais des qualifications, s'il te plaît.
Ah non, non, non. Bon, ok. Alors, attendez, bougez pas. www.statf1.com qui fait partie de tous les liens que vous pouvez retrouver sur le magnifique site Enzo F1. Et quoi, je me fais ma pub hein, en même temps. Hein. Pas de raison.
En plus, hey, il est d'autant plus beau que sur toute la première page, il n'y a que tes dessins maintenant. Et le logo du SAV.
C'est vrai.
Le très beau logo, hein. D'ailleurs, t'as vu Shinji, dans les commentaires, t'as un compliment sur le logo.
C'est gentil.
Voilà. T'as un fan.
Voilà.
Ah, c'est jamais pour rien, hein.
Ouais, voilà.
Non, il est très simple. Alors, si je peux quand même, parce que puisqu'on est sur le logo, le S, moi, je le trouve, il me gêne un peu, mais bon.
Vas-y, approfondis.
C'est la typo. Je vais pas m'amuser à mettre 46 000 typos pour...
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, le S, il est bizarre. J'avais pas fait gaffe.
Oui, je te sais. Moi aussi, j'ai trouvé que le S était un peu... Mais bon, on sait que c'est un S.
On dirait un 5 pas fini.
Voilà.
C'est le 5AV de la F1. Ah, c'est terrible. Alors, cette grille de départ.
Donc, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par la fin, avec sur la dernière grille, donc 20e position pour Sébastien Buemi sur sa Toro Rosso Ferrari, à ses côtés Adrian Sutil sur sa Force India moteur Mercedes, qui... Quoi ?
Non, je suis désolé, non, c'était très bien, je suis désolé, j'ai rien dit.
Qui est juste derrière, donc, son compagnon d'écurie, Giancarlo Fisichella. Et, en avant-dernière ligne, on retrouve à ses côtés le magnifique Nelson Piquet. Et ça...
Rien de surprenant pour l'instant.
Comment?
Rien de surprenant pour l'instant.
Voilà, tout à fait.
Donc, oh bah, Buemi, c'est quand même un peu, Buemi, c'est un peu surprenant quand même.
C'est vrai.
Oui. Bon.
Il avait quand même fait une bonne qualif, c'est relatif, mais, il a quand même été plutôt bon, et là, à finir dernier...
Tout à fait. Donc, 17e, Nelson Piquet. 15e, Sébastien Bourdais.
14e... C'est bizarre, je l'aurais fait pareil, tiens.
Bon, allez. Bah,
non, mais c'est vrai que pour te défendre, faut dire que chez Ferrari, apparemment, la 16e place n'existe pas.
Mais à propos, ça commence quand la saison de F1 ? Parce que j'ai vu un classement Ferrari 0. C'est pas commenté, quoi.
Non, mais c'est Ferrari, ils se disent, ça fait trop longtemps qu'on domine, on va laisser un petit peu les autres partir devant.
Ça doit
et puis,
ça.
On va les rattaquer comme un serpent, là.
Ça doit être ça.
Moi, je les sens bien pour la Chine. Mm-hmm. En même temps, je disais ça pour la Malaisie, alors.
Donc
16e.
16e.
Voilà.
15e.
Ah, très belle performance du pilote, hein.
Bon, alors, on va en parler 5 minutes quand même.
Non, pas 5 minutes, non, on pourra pas te dire. Mon cœur est trop faible.
On va faire super rapide alors. Ils se sont lamentablement gouffrés. Ils étaient persuadés que Massa, quand il a fait son tour, je crois qu'il était il avait fait le 9e temps. Et ils étaient persuadés que ça suffirait pour.
Bah ouais.
Rater, voilà.
Alors qu'en plus, il y a quand même 2 dixièmes d'écart avec Bourdais, donc c'est que vraiment le temps était améliorable.
Ouais, c'est clair.
Mais moi, je pense qu'il y a aussi une histoire de pneus. Je pense qu'ils voulaient, ils jouent beaucoup sur les pneumatiques. Ouais. Et je pense qu'ils voulaient garder les pneus pour la fin de séance, pour essayer de claquer des temps. Et bon, c'est la F1 d'aujourd'hui. Ils calculent beaucoup les temps, ils font beaucoup d'estimations. Puis bah là, au final, bah ils se sont pris les pieds dans le tapis. C'est un peu couillon, quoi. Et puis ça fait franchement mauvais genre pour une équipe qui est championne du monde en titre, qui a pas mal fait de boulettes l'an dernier et qui recommence cette année.
Voilà, c'est pas digne de la Scuderia et je sais pas, à la rigueur, je vais faire comme certains journaux anglais ou allemands ou italiens, je sais plus d'ailleurs, c'est peut-être allemand, qui ont dit, mais c'est de la faute à Schumi. Non, c'est surprenant quand même qu'avec Schumi sur les stands, je sais pas quel pouvoir il a pour.
Schumi fait un peu le bouc émissaire, voilà. Après c'est pareil. On a quand même l'impression là de taper sur Schumi, c'est quand même dire que grosso modo c'est reconnaître un rôle à Schumi, Alors que on sait très bien, ça fait 6 mois qu'on en parle. Apparemment, il y aura pas de reconduction de contrat. Il y a des petites dissensions, je pense, entre la direction actuelle et Choumi, la direction actuelle voulant peut-être arrêter avec l'héritage du passé Todd et compagnie. Et alors que Choumi, lui, veut s'impliquer dans l'équipe. Enfin, c'est pas très clair.
C'est clair. Maintenant, c'est à ça l'épaule, justement.
Mais je vais reprendre juste pour le bon mot. J'ai vu la dernière fois une rubrique de Anne Roumanoff et elle parlait du Parti Socialiste.
Ne nous dit pas tout.
Voilà, et elle parlait du Parti Socialiste et elle disait un truc sur le Parti Socialiste qui était très drôle et je vais le réemployer pour Ferrari. Si à chaque fois que Enzo Ferrari se retourne dans sa tombe quand l'équipe Ferrari fait une connerie, et ben en ce moment Enzo Ferrari fait le ventilateur.
C'est clair.
Voilà. Parce que c'est quand même du grand n'importe quoi.
C'est mignon.
Voilà. Merci Anne Roumanoff, si tu nous entends.
Mais elle nous écoute, elle nous a d'ailleurs laissé un message.
On est nous dit tout.
Donc, sont qualifiés, donc, sont exclus donc, de la Q.
Non mais quand même, t'imagines que là, t'as Anne Roumanoff qui est dans sa voiture qui dit « Oh, comme ils sont mignons, ils parlent de moi. »
Eh oui. Donc exclu de la Q2, donc Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Giancarlo Fisichella, Adrian Sutil et Sébastien Buemi.
Et moi, il y a un truc que je comprends pas pour revenir sur Massa, c'est que Raikkonen aussi était, je crois, juste avant Massa dans les tours de qualif. Ils font repartir Raikkonen qui se sauve les miches genre à 2 secondes à la fin du chrono. Pourquoi ils font pas sortir Massa? C'est que déjà ils avaient un doute sur les temps, quoi.
J'ai pas la réponse, donc bonne question.
C'est ça que moi personnellement je pige pas trop cette histoire. Même si je pense qu'il y a un peu de suffisance, je sais pas.
Aucune idée.
Bon bah passons à la 15e place alors.
Alors en 15e place, et bah faut quand même souligner la belle performance de notre petit français Sébastien Bourdais. Donc qui se hisse en Q2 et bon il y a pas de surprise quand même en Q2, il ne fait que le 15e temps.
C'est pareil, c'est-à-dire que
je pense que c'est le niveau de la Toro Rosso.
Tout à fait.
Oui.
Faut pas qu'on vive sur le rêve de l'année dernière où Toro Rosso était une bonne équipe. C'est redevenu la deuxième équipe de Red Bull et là-dessus, il n'y a plus de contestation.
Tout à fait. En 14e position, Heikki Kovalainen.
Oh la vache, t'es comme Priator, t'as du mal à prononcer son nom.
Ah ouais, moi c'est terrible. Il s'appelait, comment il l'appelait? Jean-Louis? Non, Jean, comment il l'appelait?
Jean-Pierre.
Jean-Pierre. Non, c'est Jean-Pierre qui l'appelait, oui, il me semble. Donc, Heikki, donc, qui signe le 14e temps. Là aussi, je pense que, grosso modo, c'est la position de la McLaren cette année.
Ouais.
Hein.
Ouais.
En plus que par rapport à Hamilton, il y a quoi? Il y a même pas deux dixièmes de différence. Donc, il est dans un bon temps par rapport à Lewis. Hein.
Tout à fait.
À vide, il n'y a rien à dire.
En 13e position à l'issue des qualifs, c'est Lewis Hamilton, mais qui va remonter d'un cran
voilà,
des classements de Sébastien Vettel.
Sur la grille, c'est Vettel.
Donc 12e Lewis Hamilton, hein, comme on a dit, c'est à peu près la position de la McLaren cette année. Bon, avec le petit avantage de Lewis par rapport à Heikki, quand même, quoi.
Ouais.
Ouais.
Bah quoi qu'encore une fois, l'écart est vraiment très faible et puis c'est une séance où on roule à vide et on fait les temps qu'on peut. Moi j'aime bien Kova quand il est en qualification et quand il joue sa chance. C'est un pilote rapide.
Tout à fait. 11e position, Nakajima, le japonais de l'écurie Williams.
Ouais.
Et c'est tout donc pour les.
On remarquera Nakajima, on dit strictement rien.
Non, bah il y a rien à dire. Hein.
Il y avait sur le site de Froissart parlait de l'affaire McLaren en imaginant que si McLaren était exclu du championnat, Mercedes partirait et donc Brown Grand Prix et Force India n'auraient plus de moteur et ils se demandaient d'imaginer où on recaserait les pilotes, notamment Button et Hamilton. Et bizarrement, le baquet de Nakajima est généralement le premier à sauter. C'est bizarre.
J'aurais dit celui de Piquet, moi.
Oui, celui de Piquet aussi. Il y a quand même, Froissart a quand même eu l'idée de remettre Lewis Hamilton dans le baquet de Piquet. Apparemment, il rêve de 2007.
D'accord. Pourquoi pas, hein.
Ah, ça peut être sympa, hein. Je suis sûr que maintenant il s'aime.
Oui, sûrement.
Sans doute.
On va quand même finir avec le dixième qui est Nick Enfeld, puisque lui aussi échoue à la porte de la Q3.
Voilà.
Il oui. finit dixième au final, mais c'est dû au déclassement de Sébastien Vettel.
Voilà.
Donc, sont exclus de la Q3 Nick Enfeld, Nakajima, Lewis, Hamilton, Heinke et Sébastien Bourdais.
Tout à fait.
Donc, pour cette Super Bowl, on retrouvait le moins bon de cette Super Bowl, car très chargé en essence, on l'apprendra plus tard, et pourtant, on dirait pas, c'est Fernando Alonso sur sa Renault.
Ouais.
Le 10e, mais qui sera au final un 9e.
Tout à fait.
Suivi, du moins, précédé. Exactement par Kimi Raikkonen,
voilà.
Mais qui lui aussi va gagner une place à la faveur du déclassement de Rubens Barrichello pour changement de boîte. Donc il perd 5 places et se retrouve 8e alors qu'il a signé le 4e temps. Puisque ouais. Vettel était 3e et oh, c'est un bordel.
En fait, c'est toute la deuxième ligne qui a sauté.
Voilà. Ouais, c'est ça, c'est exactement.
C'est quand même con ces pénalités. Enfin, n'importe
ouais,
quoi.
C'est ballon. Oui.
On fasse payer du pognon, mais qu'on arrête de pénaliser les pilotes. À tes souhaits.
Et ensuite, donc, on va parler directement de ce qu'on a sur la grille, donc avec les pénalités exclues. Sixième, Robert Kubica, qui lui n'a pas du tout été inquiété pour son accrochage avec Vettel. Hein. J'aurais bien
ouais, non.
du place en moins aussi. Bon, bref.
Moi, j'aurais dit directement, on donne pas 10 places à Vettel, quoi. Les deux ont été sanctionnés par leur abandon.
Cohérent jusqu'au bout, quoi. Hein. Si on pénalise là, on pénalise.
À la limite, si on donne 10 places à Vettel, c'est surtout 10 places pour le fait qu'il soit resté en piste, piste avec la roue sur le museau avant pendant un tour. Mais c'est
encore,
pas.
Là, c'est l'écurie qu'il faut pénaliser.
Voilà, c'est pas.
Ils ont été pénalisés en argent.
Voilà, la raison officielle, c'est à cause de l'accident et Vettel, c'est pas tort 100% pour Vettel. C'est tort partagé.
Oui.
Ouais. Donc cinquième Marc Weber qui confirme quand même la bonne forme des Red Bull moteur Renault.
Bah de toute façon c'est la meilleure voiture sans diffuseur magique et sans Kers.
Ouais.
Tout à fait. Quatrième position pour Nico Rosberg qui là encore a fait des super temps aux essais libres et finalement du moins on peut pas dire que la quatrième position ce soit une mauvaise position mais on attend quand même un mieux par rapport du moins. Quand on voit les positions auxquelles il se place pendant les essais libres. Et en qualif, il est toujours un petit peu en retrait. Notamment par rapport au Toyota qui le précède, quoi.
Mais surtout, ce qui est terrible, c'est qu'il est en retrait, alors que si je me souviens bien, Rosberg, il était plus léger que Button, Trulli et compagnie.
Tout à fait.
Et puis, là, c'est quatrième temps sur la grille, mais c'est quand même le sixième temps au total. Puis là, il est bien largué, hein. Il est quand même à 6/10 de seconde du poleman.
Et donc, on finit par les trois premiers, donc dans l'ordre, Timo Glock.
Troisième position,
Timo Glock. Confirme quand même la bonne forme des Toyota.
Ouais.
Jarno Trulli.
Deuxième position.
Et enfin,
pole position.
Coleman 2009, Jenson Button.
Ouais, encore.
Eh oui. Encore
Ah, c'est franchement, on s'était attendu lors de la dernière émission que Button serait le poleman. Ah,
c'est surprenant.
Ah, on l'aurait pas deviné.
Juste une question très rapide là.
Yes.
Pendant qu'on voit cette grille, donc comme tu l'as dit, on est mardi, c'est demain qu'on aura la décision à propos des diffuseurs.
Ah, c'est demain.
La prochaine. Oui.
Ah, oh, j'espère avoir un succès direct. Merde. Eh ben trop tard, j'ai fermé F1 Live. C'est fini. D'accord. Au revoir.
Et là, la prochaine course, c'est dimanche, du moins les premiers essais sont vendredi. Comment vont faire les écuries si jamais on dit pas de diffuseur?
Bah, je pense que quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas de diffuseur,
on va avoir 14 voitures au départ.
Honnêtement, je pense que quoi qu'il arrive, les diffuseurs seront légaux et que ça sera plutôt aux écuries qui n'ont pas le diffuseur de s'habituer. Et là, on sait que pour McLaren, pour Renault et pour BMW, il y aura sans doute les diffuseurs à la première course européenne, donc en Espagne. Pour Ferrari et pour Red Bull, c'est plus complexe parce qu'apparemment, c'est toute la partie du châssis arrière qu'il faut transformer. Et là, le fait d'avoir vraiment fait des voitures, pour le coup, Ferrari et Red Bull ont fait des voitures un peu révolutionnaires. Et ça pourrait leur coûter cher. Après, je pense que dans le système actuel, ils peuvent très bien remplacer un simple diffuseur par un double diffuseur. Je pense qu'il est plus difficile de mettre un double diffuseur à l'endroit d'un simple diffuseur que de mettre un simple diffuseur à l'endroit d'un double.
C'est vrai.
Voilà.
Ouais.
Et je pense qu'ils ont bien étudié le truc. Et puis Braun est prévenant. Braun, apparemment, tout ce qu'on a appris, c'est que Braun avait averti les équipes en leur disant, écoutez, là, il y a une faille. Est-ce qu'on réglemente les diffuseurs? Personne n'a voulu réglementer. Donc Braun, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait leur diffuseur. Et là, ce qu'on a appris aujourd'hui, mais qu'on avait déjà un peu appris un peu plus tôt, c'est que Renault avait déjà fait la demande concernant un dispositif similaire et que la FIA lui avait dit non. Donc, on s'y perd un peu dans cette histoire.
C'est clair.
Donc, voilà. Donc, au niveau des chiffres, bon, on va peut-être garder ça pour plus tard. Quoi, Shinji, t'as des chiffres concernant la qualif?
Non.
Non?
Non.
Bon, bah, c'est pas grave. Non, parce que si on est sur Stat F1, on voit les chiffres, mais je sais pas si tu les as notés. Donc on pourra quand même dire que c'est une pole position qui s'est réalisée à une moyenne de 209 km/651, que c'est la cinquième pole position de Jenson Button, la deuxième d'affilée, ce qui est une première fois pour lui. C'est la deuxième pole position pour Brown Grand Prix, la deuxième d'affilée, c'est la première fois pour eux aussi, en même temps. Beaucoup ouais. De premières pour Brown Grand Prix. Et c'est la 72e pole position pour Mercedes en tant que motoriste. Donc voilà. On passe à la course ?
Yes !
Ouais.
Donc une course, comme je le disais, qui était annoncée pluvieuse, puisqu'apparemment toute la semaine il a plu matin, midi et soir. D'ailleurs, au moment du départ, on nous annonçait de la pluie dans 10 minutes. Et puis d'ailleurs, je ne me trompe pas, la veille aussi, la course de GP2 Asia qui se tenait en Malaisie avait été décalée. Le départ avait été décalé, pareil, pour cause de trombe de pluie, parce que quand il pleut, il pleut.
Ah, il pleut.
Au niveau des données sur le départ, ben, on avait déjà vu à Melbourne que le Kers allait jouer un rôle. Il l'a rejoué.
Ouais.
Concernant les pilotes, on sait juste que le pilote le plus léger sur la grille, c'était Vettel. Ça, c'était attendu. Et que parmi les pilotes de tête, Button était plutôt lourd, et qu'inversement, Trulli, Glock et Rosberg étaient plutôt légers. Voilà. Alonso était lourd, Raikkonen était lourd, et puis voilà. Moi, j'aime pas ce truc.
Raikkonen n'était pas si lourd que ça. Hein.
Non, il n'était pas.
Bah, il n'était pas chargé comme Alonso, parce qu'Alonso était vraiment très très chargé, mais Raikkonen était quand même parmi les plus lourds sur les 10 premiers, parmi les plus lourds.
Je crois qu'il y avait 20 kilos d'écart entre Alonso et Kimi, non ?
Faudrait qu'on cherche. Mais c'est ça alors.
Ah, voilà une info qui manque dans Stat F1.
Voilà, justement, si les gens de Stat F1 nous écoutent, hein, on leur enverra un petit mail. Mettez-nous pour chaque Grand Prix la quantité d'essence. C'est insupportable d'avoir ça au moment de la course. Moi, je déteste, mais.
Mais après coup.
Après coup, c'est intéressant. C'est une bonne stat, surtout que là, elle est offerte, donc autant la prendre. Donc, on part sur le départ. Très bon départ de Nico Rosberg.
Oui.
Oui.
Mais j'ai même cru à un moment donné qu'il avait grillé le départ.
Ça aurait pu.
Moi, j'ai plus remarqué le départ d'Alonso.
Oui.
Peut-être parce qu'il nous a plus fait chier.
C'est vrai. Au niveau du départ, on peut noter donc Rosberg qui passe premier avec un très très beau départ. Trulli qui reste un petit peu sur la grille et Button qui est un peu plus lourd, qui est un peu plus poussif à partir. Donc Rosberg se retrouve en tête. Dans les départs, on a un départ catastrophique de Glock qui passe de la 3e position à la 8e position. Mais ça s'explique aussi par le départ de Raikkonen d'Alonso. Alonso qui passe de la 9e position à la 3e avec un super départ. 3e au départ.
3e ?
Ouais.
Il se fait redoubler après par
Button. Il se fait redoubler par Button.
Ouais.
Et pareil, beau départ aussi de Kimi Raikkonen. C'est les deux premiers pilotes qui disposent du Kers sur la grille. Donc, c'est pas étonnant. Les autres derrière ont sans doute fait des beaux départs aussi, hein, mais on les voit pas.
Bah, ceux qui ont le Kers sont un peu aidés au départ. Donc, on voit des pilotes surgir de grille qui sont un peu derrière. Et forcément, bah, c'est plus, plus mouvementé que ce qu'on a pu avoir par le passé, quoi.
Ouais, ça, en plus.
On croirait revenu au, à l'époque des Mass Dumper de Renault.
Oula!
Je me rappelle d'un Grand Prix de Turquie 1900, ah non, pas 1900, pardon, 2000.
En 1902, le Grand Prix de Turquie était accueilli en Turquie!
Ah, tu le fais bien!
Eh, hey, des années de pratique!
Ah non, Grand Prix 2007, où justement, avec les Mass Dumper, les Renault menacent les Ferrari au départ. Je ouais. vous renvoie sur un superbe dessin là-dessus. Bon, bref. C'est, en fait, je me rappelle des Grands Prix à cause de mes dessins maintenant. C'est marrant, quoi. Non, mais c'est vrai, le pire.
Moi, je me rappelle des Grands Prix juste à cause du Tour du Monde de Dino. C'est pour ça que j'ai aucun souvenir de Shanghai l'année dernière, aucun souvenir de Singapour.
Bah, pareil.
Quoique les idées étaient très bonnes, hein, mais j'ai jamais eu le temps de les écrire. Hein. Je suis désolé. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le départ, c'est que, donc effectivement, comme à Melbourne, on avait les voitures de derrière qui étaient équipées du KERS qui remontaient. Mais en plus, on a eu la première ligne qui s'est un peu foirée dans son départ, donc ça a vraiment tout comprimé. Et c'est un peu sorti de tous les côtés.
C'est vrai.
Donc ça a donné un joli départ et puis un premier virage qui était plutôt sympa, notamment entre Kimi et Alonso où ça a été assez fun. Moi, j'ai bien aimé. Revoir Kimi et Alonso aux avant-postes, c'était sympa. Mm-hmm. Respire, Enzo, respire. Autre fait du départ, alors j'ai hésité à le mettre dans mes drive-thru of the race, c'est BMW et Kubica.
Ah oui.
Kubica qui, pendant son tour de chauffe, dit « Eh les gars, j'ai un problème avec le moteur ». Et les mecs qui le laissent aller sur la grille de départ alors qu'il a le moteur qui rate. Voilà, Kubica qui se décolle comme si c'était le seul emplacement sur la grille où il y avait du béton coulé. Donc voilà, c'est très dangereux, je trouve. C'est tout aussi irresponsable que ce qu'a fait Red Bull la semaine dernière, enfin lors du Grand Prix d'Australie, avec la roue avant sur le museau. Voilà.
Et ben quand on voit en fait que Kubica n'a pas été pénalisé alors que Vettel l'a été, eh bien on voit qu'en fait un jour tout se paye.
Voilà.
Ouais. Et il a détruit son moteur en plus.
Bah oui, parce que le moteur, enfin Kubica a inventé a abandonné au premier tour.
Ouais.
Mais c'est pas le premier à abandonner, hein.
Ah bah non.
Parce qu'on a parlé de la piquette, mais
faut qu'on vous parle d'un pilote. Enfin, il paraît que c'est un pilote. Il paraît qu'il est finlandais.
Ah non, non, t'as pas le droit de parler comme ça de Kuma.
Il paraîtrait même qu'il est chez McLaren. Et vous savez quoi? Il paraîtrait qu'il est en F1 cette année.
Ah, comme Ferrari alors.
Ah non, mais eux, on les
Ferrari.
Voit.
Ferrari. C'est quoi cette marque? C'est des petits nouveaux.
On les voit. C'est-à-dire que si tu vas sur StatF1 et que tu vois les statistiques de la saison, dans kilomètres parcourus, il y a 19 pilotes.
Non.
Si, je te jure.
Attends, tu veux dire que Kovac, il a pas fait un seul kilomètre?
C'est un peu faux, leur truc. Il a pas fait un tour complet.
Voilà, il a pas
fait. Ah, voilà.
Il a dû peut-être faire au maximum 2 ou 3 kilomètres, hein, parce que. Mais en même, Australie même aussi, c'était pareil, hein.
En Australie, il a fait quoi? Je me rappelle même plus ce qu'il a fait en Australie.
Ah non, il est sorti tout de suite.
Ah bon,
il est sorti tout de suite.
Putain, la vache.
Il a 2 kilomètres. Et peut-être même qu'il a même pas fait 1 kilomètre. Mais là, j'en doute plus.
N'importe quoi. Ah avec ouais, effectivement. Ah ouais! Il a porté au premier tour. Ah ouais! Truc trop drôle.
Je viens de voir un truc horrible.
T'as vu quoi?
Je suis désolé, j'adore le site StatF1. Mais là, il y a des camemberts où il y a des arcs-en-ciel.
Dis-nous la page qu'on aille voir.
dans kilomètres parcourus, vous faites dans les statistiques, et kilomètres parcourus, et après, donc, c'est par pilote, par constructeur, par moteur et par nation, et derrière les camemberts, je sens que les pattes ne passent pas là.
Attends, c'est où kilomètres parcourus? J'ai pas de camembert, hein. J'ai du brie, j'ai de l'emmental, mais pas de camembert.
C'est nul.
Ah mais ils sont obligés, il y a plein de pilotes.
Ah ouais.
Oui, mais bon.
Non, mais ce qui est très drôle, c'est surtout de faire un diagramme pour les pilotes en kilomètres parcourus où tu mets les 22 pilotes, tu vois quasiment rien sur le diagramme, quoi.
Tout à fait.
Donc, ouais, c'est... Donc, c'est dans saison 2009, kilomètres parcourus, enfin, statistiques de l'année et kilomètres parcourus. Et tout en bas de la page.
Bon, là, on s'égare un peu.
Oui, c'est vrai. Non, ça, ça sera... Ça, oh, ça, je sais pas.
Non, ça sera coupé.
Donc,
il faut enlever les trucs inutiles.
Alors, c'est pareil. On lance un stage.
Émission, il faut faire une émission de qualité. Donc, il faut enlever les trucs inutiles.
Ah ouais, mais à chaque fois, il faut qu'on reprenne le fil. C'est terrible. Donc, sur le départ, en vol de Nico Rosberg qui pointe en tête à la sortie du premier virage. Alonso qui fait l'intérieur et ressort troisième. Et à ce moment-là, classement, c'est Rosberg, Trulli, Alonso, Button, Barrichello et Raikkonen.
Et ça a continué à bouger.
Ça a continué à bouger puisqu'on a effectivement la belle sortie de Kovalainen.
Oui.
Qui sort tout seul.
C'est pas avec Buemi parce que il a cassé un aileron avant Buemi. Il a dû repasser au stand parce qu'il avait un aileron avant cassé. Demande si c'est pas suite à un contact quand même avec Aiki.
Peut-être, ouais. Mais quand même, il est parti tout seul. Hein. Enfin, il est moi, je pense.
Oui, oui,
il est derrière. Il est derrière Hamilton, juste dans la quand tu montes. Donc t'as le départ et ensuite t'as un virage à gauche où t'as une petite montée qui donne sur un deuxième virage à gauche. Non, virage à droite. C'est deux virages à droite. Merde, le con. Donc t'as deux virages à droite, puis après t'as les deux virages rapides là. Attends, je suis sûr qu'il y a des noms à ces virages. Malaisie. Mais désolé, hein, cher auditeur, mais faut qu'on...
Voilà, donc... Chers auditeurs, quand même.
Chers auditeurs. Voilà. À côté, enfin, c'est entre le Langkawi et Genting. Voilà, ça dit strictement rien, mais voilà. Vous irez voir, entre Langkawi et Genting, il sort dans la grande courbe et en fait, il est juste derrière Hamilton et je pense qu'il est dévanté et il part tout seul, quoi.
Non, on peut plus être dévanté, maintenant.
Mais il est quand même parti tout seul, hein.
Il part
parce
tout seul.
On l'a vu intérieure de je sais plus quelle voiture. Et il perd contrôle dans le virage, tout seul, sans touchette, hein.
Ouais.
Donc voilà. Bon, ça vaut pas Piqué, parce que Piqué c'était en ligne droite, mais ça là était pas mal. Donc ensuite, on a Buemi effectivement, comme tu le disais, qui rentre au stand.
Ouais.
Deux courses, deux ailerons avant pour Red Bull, hein.
Sauf que c'est Toro Rosso.
Oui, mais ça reste Red Bull, c'est la même voiture. Arrête. C'est pas la même équipe, mais c'est la même bagnole, c'est bon.
Ah bon? On m'aurait menti?
On ne nous dit pas tout. Et Alonso, Alonso qui est donc plein à craquer, commence à perdre des places. Il s'était déjà fait repasser par Button. Et il se fait passer par Barrichello. Et tout le monde dit que c'est à cause de ça qu'il a plu, c'est qu'il a commencé à pleuvoir, c'est les larmes d'Alonso. De se faire dépasser par Barrichello, le pauvre, ça lui a fait un choc. Oh. Au quatrième.
Ça doit pas être la première fois, pourtant.
Je sais même pas s'il avait dépassé.
Non.
Bonne question. Très bonne question.
Qui fait pas avancer le schmilblick, mais
au tour suivant, Vettel s'attaque à Hamilton pour le gain de la 10e place.
Oh mais bon, la McLaren.
Ouais mais quand même.
Moi aussi j'ai marqué Vettel double Lewis 10e.
Et donc au 8e tour, donc la course est un petit peu calmée, on va dire. On a Rosberg qui est toujours devant Trulli, suivent Button, Barrichello, Alonso qui est déjà à 20 secondes, Raikkonen, Weber, Glock et Heidfeld. Qui forme un petit train derrière, clôturé par Vettel qui est dixième.
Ouais, bah Alonso a bouchonné.
Ah bah il a bouchonné tout le monde et quand Raikkonen passe enfin, parce que quand même faut pas se foutre de la gueule du monde, enfin ouais. Il passe au 11e tour. Je trouve mou Raikkonen, ça m'énerve. Raikkonen compte déjà 26
secondes. On en reparlera. Hein.
Ah oh. Ça sent le drive from. Donc Raikkonen passe enfin Alonso, mais à ce moment-là, après 11 tours, il a déjà 26 secondes de retard sur Button, et c'est surtout il a 16 secondes de retard sur le quatrième qui est tout Barrichello. C'est pas Button qui est leader, c'est Rosberg. Qu'est-ce que je suis con. Oh la vache, je tiens plus cette émission. Pourtant, je suis plus malade. La semaine dernière, j'étais malade, ça tournait rond là. Plus malade et ça tourne plus rond. On est marre.
Comme quoi.
Alors Kimi, il... on en parlera. Non mais quand même, c'est, il a du mal quoi.
On en parlera.
Ok, d'accord. Bon, ensuite.
La suite de la course.
Ensuite, donc Kimi passe. Weber va passer aussi à son tour.
11e tour, il passe.
Après une super passe d'armes.
Ouais.
Sur les deux lignes droites, ça s'est passé et redépassé.
Entre deux voitures qui ont le Kers en plus.
Non, Weber a pas le Kers.
Ah, Weber, je pensais que tu parlais de Raikkonen.
Ah non. Raikkonen avait déjà eu une belle passe d'armes avec un très beau dépassement d'ailleurs de Raikkonen. Il bluffe un peu Alonso à l'extérieur puis il passe à l'intérieur. Moi, c'est assez classique, mais j'ai bien aimé.
Ouais. Alors en gros, moi j'ai noté Weber passe Alonso, mais Alonso le repasse et Weber repasse, Alonso repasse, Weber encore.
Mais c'est là aussi un truc, c'est par rapport au Kers, comment on a beaucoup parlé du Kers, on a dit qu'effectivement c'était dur pour une voiture qui était dépassée par un Kers de redépasser la voiture. Là, on a la preuve du contraire.
C'est vrai.
Donc est-ce que le Kers, est-ce que pour une voiture qui n'a pas le Kers, être derrière une voiture du Kers, c'est un avantage parce que c'est de l'aspiration en plus. Voilà, donc en plus comme là c'est une bonne voiture parce qu'apparemment la Red Bull est bonne.
Est-ce qu'il n'y avait pas aussi déjà un peu de gouttes de pluie à ce moment-là?
Non, parce que la pluie va arriver au tour 19.
D'accord.
Voilà. Donc voilà, à ce moment-là, la principale activité sur la course, c'est Alonso qui bouchonne et les pilotes qui le passent. Alonso qui commence à souffrir. En plus, je crois qu'il est en pneu tendre à ce moment-là avec le plein.
Possible.
Donc voilà. Premier ravitaillement, 14e tour, avec Vettel. Vettel qui va ressortir. Trulli rentre à son tour et ressort derrière Rosberg. Donc passage au ravitaillement assez classique. Jusqu'à ce que, au 19e tour, quelques gouttes de pluie apparaissent.
Le premier moment de la course.
Et là, qui c'est qui rentre au stand?
Kimi
Raikkonen. Et là, il se passe le moment où soit il pleut et Ferrari, Kimi, Schumacher sont des dieux sur le monde de la F1, soit il pleut pas, ce qui est arrivé, et Ferrari, Kimi et Schumi sont la risée du monde de la F1. Raikkonen, qui est cinquième, passe des pneus pluie.
Deux pour trop tôt.
Voilà.
Ce qu'il faut quand même voir, il passe des pneus, il se retrouve, il est dans une situation où il est 15e. bloqué derrière Alonso, et à cause de ça, il va se ressortir 15e parce que justement, normalement, il aurait dû un peu plus de meute, et en gros, la meute, elle est toute bloquée derrière. Donc, est-ce que c'est un mauvais choix?
Ou est-ce qu'ils avaient anticipé la stratégie?
Fallait tenter le truc, moi je dis.
Ouais.
On peut pas leur reprocher d'avoir osé un truc pareil.
C'est justement ce que je disais, c'est-à-dire que c'est soit par leur stratégie, la stratégie marche. Quand ils sortent, il pleut, et là, à ce moment-là, bah, Raikkonen va aller 6 secondes au tour plus vite que les autres, il va refaire son retard et peut-être même envisager de gagner la course. Soit il pleut pas et il passe pour des guignols, donc le pari il est pris. S'il est gagnant chez Ferrari, tout le monde est louangé et tout le monde est voilà. C'est comme la stratégie des 4 arrêts au stand à l'époque de Schumi au Grand Prix de France.
J'y étais.
Ah bon?
Pardon. Ouais.
Alors il raconte. Ça fait quoi de voir un truc qui marche?
Si ce n'est que je l'ai compris avant tout le monde.
Ah bon?
Ouais.
Oh, tu es trop fort, Enzo.
N'est-ce pas?
Mais ouais, ça avait été un gros moment, mais en même temps, si ça marche pas, si la stratégie des 4 arrêts tombe à l'eau, et ben c'est la risée, et là c'est ce qui est arrivé. Ils ont tenté un truc. Ce qui est un peu inquiétant, c'est de voir Ferrari, avec Kimi Raikkonen, qui est quand même le champion du monde dans l'équipe, qui a besoin de confiance. Ils sont 5e pendant la course, ce qui est pas un mauvais résultat. Prendre ce genre de pari, c'est...
Tu parlais de Schumacher pour Massa en qualif, mais on a aussi parlé de lui pour ce choix de pneus.
Mais là, à la limite, que ce soit Schumacher, autant pour Massa, Je pense que c'est un ensemble. Je pense que Choumi est plus prudent que ça. Autant oui. Je pense que là, vraiment l'idée du pari, c'est une idée à la Rose Brown et à la Choumi. Pour moi, ça c'est du Choumi 100%. Mais on peut pas non plus lui lancer la pierre. Parce que je pense que si la stratégie marche, tout le monde demande à ce que Dominique Ali soit renvoyé et que Choumi devienne directeur sportif, quoi. Ouais. Alors que là, tout le monde vire Choumi.
Ouais.
T'as pas la convaincu, Enzo?
Non, je suis pas persuadé que Schumacher a un grand pouvoir pour décider ce genre de truc. Je pense que le temps de décision pour un événement comme ça, c'est, je sais pas, c'est 2-3 minutes et je pense qu'on consulte pas 50 personnes chez Ferrari. Je pense qu'il y a une personne ou deux personnes qui prennent la décision et je pense pas qu'il y ait Michael là-dedans, quoi.
Mais est-ce que c'est pareil,
c'est un avis, hein, mais...
Non, mais je suis plutôt d'accord parce que dans cette histoire on tape sur Michael, mais on oublie un, c'est Raikkonen, quoi.
Oui.
Parce que Raikkonen, c'est lui qui est sur la piste, il sait très bien où il pleut, il voit les flaques, etc. Et on sait très bien que chez Raikkonen, quand il rentre au stand, il fait ce qu'on lui dit. On lui dit de mettre des pneus, il les prend, il s'en va, il fait les temps qu'il faut. C'est un mec qui fait son boulot, mais qui apparemment dans l'équipe prend peu de décisions. Et là, c'est l'illustration du Raikkonen qu'on connaît, qui prend peu de décisions.
C'est assez surprenant qu'on ne demande pas l'avis du pilote là-dessus.
Mais est-ce que lui le donne seulement? C'est ça la question. Autant je pense sur Massa.
Si on lui pose une question, je pense qu'il va répondre quand même. C'est pas un légume à ce point-là.
Je sais pas. C'est peut-être à lui de s'imposer aussi. C'est-à-dire que si l'équipe prend une décision,
c'est
à lui de dire.
C'est pire que ce que je pensais.
Hein?
On en reparlera.
Non, mais c'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est aussi au pilote de s'élever. On avait eu, je crois, c'était en Australie, c'est Heidfeld qui s'était opposé à la stratégie de son équipe. Et l'équipe s'y est pliée. C'est-à-dire que voilà, ce que le pilote décide, ça reste, c'est lui qui a le dernier mot. Est-ce que Raikkonen à ce moment-là peut pas dire, écoutez, non, moi vous me virez ces pneus, je vais peut-être perdre 2-3 secondes au stand, mais vous me remettez les pneus tendres parce que pour le moment il pleut pas encore.
Je pense que même avant qu'il rentre dans les stands, ils lui ont dit, on va te mettre des pneus pluie, hein, même. Hein.
Ouais, voilà. Donc
à mon avis, il s'en aperçoit pas quand on lui monte. Hein.
Non, mais c'est à lui de s'opposer. Alors il a tout
ouais,
le temps de s'opposer.
Ouais, ouais, tout oui. Fait.
Même.
Après,
même...
Il a pas dans son cockpit encore la carte Météo France, quoi. Ça existe pas encore.
Oui, enfin là, on est quand même au 19e tour et au départ, il nous disait, attention, plus dans 10 minutes, et là, on est quand même à presque 40 minutes de course.
Non, mais oui, tout à fait, justement, mais il pense que ses ingénieurs ont les bonnes infos, je pense.
C'était déjà le cas l'année dernière, à Silverstone.
Mm-hmm.
Ils avaient les bonnes réponses, hein. Ils savaient que la météo.
Oui. Ouais, non, mais d'accord.
Donc, mais en tout cas, apparemment Ferrari ils ont un problème avec la pluie, quoi. On savait que Massa avait un problème, mais Ferrari aussi. Donc, allez, on passe sur ce moment un petit peu attristant, parce que ça gâche un peu la course de Kimi qui se retrouve 15e et avec des pneus qui vont vite se dégrader comme la pluie vient pas. Et puis de toute façon, quand la pluie vient. Il y a un moment donné, on écoute sa radio et puis il dit les pneus sont morts. C'est... En fait, il se retrouve après deux tours, il s'est retrouvé avec des pneus slick, ça n'a rien changé. Donc voilà, gros pari qui est quand même inquiétant pour Ferrari parce que c'est soit une équipe qui est suffisante et qui se dit on peut tenter ce pari-là et qui se dit on va jouer la gagne, etc. Alors que justement, vu leur performance, la cinquième place, c'était des points à prendre et c'était quelque chose de bien à prendre.
D'accord.
Donc ensuite, les autres pilotes qui vont ravitailler vont pas prendre ce choix-là. Je pense à Button notamment qui va repartir en slick. Et puis au 21e tour, là, la pluie tombe vraiment et la première victime, c'est Fernando Alonso qui part dans le bac à sable et qui ressort. Raikkonen est en difficulté parce que lui, ses pneus sont totalement usés. Et à ce moment-là, après les stands, c'est Button qui mène avec 14 secondes d'avance sur Rosberg. Puis il y a Trulli avec 16 secondes, Barrichello, Weber, Heidfeld, Hamilton et Glock à la 8e place.
En fait, la vraie surprise, c'est que ce soit pas une pluie diluvienne, quoi.
Ouais, c'est venu vraiment.
À ce moment-là, non.
Ouais. C'est vraiment venu doucement. Hein. Tout le monde s'attendait à ce que ça tombe d'un coup, puis c'est vraiment venu doucement, alors que les nuages étaient super super menaçants. Il y a des photos. Il y a une photo sur justement Stat F1 qui est assez parlante où on voit deux voitures sur le circuit qui est qui est enfin c'est un circuit en plein jour quoi, et sur un fond avec des nuages noirs, le ciel est gris mais comme
il fait nuit.
Au 26e tour, Glock passe au stand à son tour et lui fait un autre pari qui cette fois-ci va s'avérer payant. Il va passer les pneus intermédiaires.
À quel tour tu m'as dit?
Au 26e.
Oh, c'est un deuxième arrêt ça.
Tout le monde s'est arrêté avant pour prendre des pneus pluie, donc des pneus extrêmes, parce que justement ils s'attendaient à ce que ce soit des pluies diluviennes, et comme l'a dit Enzo, c'était plutôt une petite pluie, et Glock avait pris le pari justement de mettre des pneus intermédiaires, donc qui sont pour petite pluie, et ça a été finalement payant.
Tout à fait.
Ce qui fait qu'on a eu vraiment là un balai d'équipe, enfin, on a des pilotes qui sont allés au stand mettre des pneus extra pluie, puis au bout de deux tours qui sont revenus pour remettre des pneus pluie, et puis en fait ils ont dû revenir au bout de deux tours pour remettre des pneus extra pluie parce que là tout d'un coup il s'est mis à pleuvoir des cordes comme pas possible. Et
je crois que Button a fait un truc comme 4 arrêts, non, c'est pas ça?
Ou 3. Ouais, c'est ça.
4 arrêts, hein.
C'est alors, 4, hein. Alors que Glock en fait 2.
Le tout en 31 tours, quoi.
Et Glock, lui, bah, justement, en faisant son pari de mettre d'abord des pneus pluie, quand il a vu que la pluie était trop importante, il a pu rentrer sans problème mettre des pneus extra pluie, il avait parfaitement géré le timing. Là, pour le coup, c'est un pari qui est bien mesuré. Enfin, quoi qu'il arrive, il avait 6 secondes, il roulait 6 secondes plus vite et il a passé Hamilton, il a passé Hedfeld, il a passé Weber et Barrichello.
À ce moment-là, les équipes décident de remettre les intermédiaires.
À ce moment-là, ils ont décidé de remettre les intermédiaires et assez rapidement, comme la pluie va redoubler, ils vont retourner au stand mettre les pneus pluie. Là, quasiment tout le monde va mettre les pneus extrêmes.
Voilà. Et voilà comment tu te retrouves avec 4 arrêts.
Voilà. Si on compte, Button, il fait son premier arrêt à la régulière au 15e tour. Il rentre une fois pour mettre les pneus extrêmes. Il re-rentre une deuxième fois pour mettre les pneus intermédiaires. Et il rentre une quatrième fois pour remettre les pneus extrêmes. 4 arrêts.
Voilà.
Et donc là on est un petit peu dans un espèce de fou artistique où on sait pas vraiment qui est en tête. En plus ouais, c'est vrai qu'avec la pluie on voyait pas grand chose. Et donc à un moment donné Glock est leader et puis en fait Button redevient leader. Enfin c'est pas très, on n'arrive pas beaucoup à suivre. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le drapeau rouge.
La safety car.
Et la safety car puis le drapeau rouge.
Ah oui, la safety car. Enfin le safety boat.
Oui.
Parce que là, allez, sérieusement, l'image de Kimi Räikkönen qui arrive dans l'épingle, je sais pas si vous l'avez vu, mais on met le drapeau rouge et les voitures commencent à arriver sur la ligne d'arrivée. Vous avez Kimi Räikkönen qui arrive dans l'épingle et avec la forme de la voiture, on avait l'impression que c'était un bateau. Tellement il y avait de l'eau qui remontait.
Ah oui, il y avait de l'eau partout.
Et l'abandon de Kimi sur la défaillance du Kers, je me demande si c'est pas à cause de l'eau qui serait rentrée dans les pontons. Et qui aurait noyé les batteries du Kers, parce que c'était l'image, si vous arrivez à la retrouver sur Internet, sérieusement, l'image, regardez-la, ouais. C'est une image impressionnante. Enfin, moi, j'ai rarement vu ça, hein. En même temps,
C'était vraiment incroyable, hein. Il y avait, facilement 1 centimètre de pluie, voire plus.
Ah ouais, à certains endroits, c'était quasiment des mini-lacs qu'il y avait, enfin, c'était, Et donc, effectivement, tu as raison, Enzo, d'abord, il y a eu la safety car. Au 32e tour, et puis en fait, le drapeau rouge a été rapidement hissé. Les voitures se sont rangées sur la ligne, un peu...
La safety car, c'est suite à une sortie, hein.
Oui, il y avait la sortie de Vettel.
Oui.
Voilà, il y a Vettel qui sort.
Vettel qui sort, il y a Hamilton qui fait une pirouette, qui s'en sort très bien d'ailleurs. Il y a Vettel qui sort, et puis je sais plus qui d'autre sort. Ça devait être Piqué, hein, ça fait une heure qu'on parle pas de Piqué, donc ça devait être Piqué.
Et donc les voitures sont garées. Parce que ranger, c'est un bien gros mot. Hein.
Ouais, il y en a dans tous les sens. Hein.
Ouais.
Et là, enfin, c'est n'importe quoi à ce moment-là. Enfin, pour l'image de la F1, c'est dramatique. Enfin, moi, je trouve ça.
C'est pas terrible.
On a, à partir de ce moment-là,
dans un sport aussi réglé, aussi technologique, où on sait le règlement, c'est un bottin. Le règlement sportif et le règlement technique, c'était le foutoir total.
C'est
voilà.
Ouais, il y avait des images totalement hallucinantes. Enfin, l'image de, elle est belle cette image. Enfin, je trouve elle est en plus symbolique de la situation. L'image de Ross Brawn qui va chercher, ramasser un porte-pneu. On sait même pas s'il est à lui. Il le ramasse comme n'importe quel mécanicien. Voilà, c'est ce mec-là. Il est en tête d'un Grand Prix. C'est le deuxième Grand Prix de l'histoire de son écurie. Il est sur la grille de départ. Il y a un déluge. Il sait pas si la course va repartir. Il devrait penser à des milliers de trucs. Et qu'est-ce qu'il fait? il s'occupe du ramasse pneus, quoi. C'est un truc.
Et parce que forcément, les voitures sont arrêtées, donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elles vont repartir? Alors, vu le temps, c'était plus que mal barré.
C'est clair.
Mais on peut très bien dire que c'est une façade, enfin que ça.
C'est une façade, sachant que.
Il fallait 42 tours pour que on fasse le règlement. C'est si on fait, je crois, c'est moins de 2 tours, c'est on y 0 point. Si la course fait 75%, si on fait plus des 3/4 de la distance, on donne tous les points. Et puis entre les deux, bah on donne la moitié des points. Et là, les 3/4 de la distance, c'était 42 tours. Donc il restait 10 tours à faire.
Voilà.
Donc sans doute que, en plus ce qui est assez pour la remarque, c'est que on parle de la FIA qui est censée, enfin la FIA ou l'organisation qui est censée prendre les décisions, et en fait c'est pas la FIA, c'est la FOM. Ouais. C'est l'organisation, donc c'est la FOM, l'entreprise de Bernie Ecclestone, et selon certaines rumeurs, le fait que ça ait duré comme ça pendant 50 minutes, c'était surtout pour maintenir l'antenne, et voilà, et malheureusement...
Moi, je suis persuadé que c'est pour ça, hein, ça c'est
clair. Ouais, moi aussi.
Mais malheureusement, ça a été d'un intérêt tout relatif. On a vu les coulisses.
Bah, entre guillemets, il s'est rien passé, mais il s'est passé un truc.
Voilà,
c'est... qu'il ne se passe rien.
Voilà, mais en plus, on a vu...
Pardon.
Tu peux c'est vrai. Voir 15 bagnoles sous la flotte, l'anarchie complète, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, les gars de la FIA, on sait pas où ils sont. Il se passait rien, mais il se passait un truc.
Joker. Non, mais je comprends ce que tu dis, ouais, tout à fait.
Moi, je comprends pas. Réexplique.
C'est passé un truc pas banal.
C'est vrai.
Voilà.
Mais en plus, c'est-à-dire que, Ça a aussi été intéressant parce
même
que
on s'est foutu de notre gueule.
On s'est clairement foutu de notre gueule. Enfin, on nous a fait croire que la course allait reprendre jusqu'au point de refaire une grille, de demander. C'est ça le pire, c'est qu'on a demandé. Ça faisait une demi-heure que la course est interrompue. On nous dit bon bah c'est bon, là on va avoir un signal de 10 minutes. C'est le blackout total. Personne ne sait ce qui se passe, même sur le site officiel de la F1, il n'y a aucune information. On va refaire la grille.
En plus, malgré le drapeau rouge, le chronomètre de la course continuait. Donc
Moi, je pensais au départ qu'ils allaient repartir juste pour faire 10 tours. Parce que comme aussi, c'est aussi l'idée, c'est de donner des points, entre guillemets, devant, il y a pas mal de petites équipes. Hein, donc, je pense que l'idée aussi derrière, c'était de se dire, si on peut relancer la course, on la relance. Comme ça, Brown Grand Prix, etc., ils auront un résultat avec tous les points, ce qui va creuser l'écart avec McLaren, avec Renault, avec Ferrari, qui a 0 points. Ouais. Voilà, c'est aussi l'idée de se dire, au cas où que ça se casse la gueule en plein milieu de saison, il y aura déjà une belle avance.
Et bon, la dernière chose qui faisait qu'on pouvait pas repartir, c'est l'horaire.
Parce
qu'il faut pas oublier que le Grand Prix de Malaisie était plus tard que d'habitude. Hein. Déjà, il y avait l'orage qui faisait qu'il y avait pas de visibilité, mais en plus, il commençait à faire nuit.
Ah, là, l'horaire, sérieusement, c'était n'importe quoi. Le départ à 11h, moi, j'ai vu la fin de la course en mangeant, quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils nous ont changé l'horaire de la Malaisie, alors que sans changer d'horaire, la Malaisie aurait commencé à 8h, et que la semaine dernière, on s'est élevé à 8h. Et que pour le Grand Prix de Chine, on va se lever à 8h. Enfin, à 9h.
Et le truc, c'est que la Malaisie, maintenant, ils sont en concurrence avec Singapour.
Bah, qui passe directement la nuit. Ceux qui ont vu le Grand Prix moto qui était diffusé sur NT1,
ouais.
Je pense que à regarder la course, les motos sont jolies, donc les voitures ce serait pareil. Et contrairement à Singapour, bon c'est dans les rails, c'est un peu claustrophobique, puis bon c'est un peu austère. Là on avait quand même un magnifique circuit. C'est un circuit en désert, donc le décor n'est pas forcément énorme, mais voilà la lumière donnait une atmosphère particulière, donnait vraiment quelque chose de magnifique. Et pour l'année prochaine, ils parlent de mettre la Malaisie en horaire nocturne. Il se pourrait que le Grand Prix d'Abu Dhabi soit lui aussi en horaire nocturne. Des circuits traditionnels comme ça serait super chouette.
Ouais.
Tout à fait.
Donc, voilà, sur les...
Je pense que c'est peut-être plus compliqué pour eux aussi de faire... d'éclairer un permanent.
Il faut financer.
Ouais, mais... Ça a été fait au circuit du Lozail, c'est-à-dire que le circuit du Qatar, c'est un circuit comme le circuit de Bahreïn. Hein. Il n'y a pas de grosses différences. Et pourtant, il est superbement éclairé. La piste a une belle couleur. Enfin, la nuit, moi, j'ai franchement... C'est la première fois que je regardais de la moto depuis au moins 5 ans. J'ai pris du plaisir à regarder cette course. Mmh. Alors que, franchement, la course n'a pas été super passionnante. Mais bon, là, on part dans la moto. Après le golf, la moto. Donc...
pas grave, on comprend.
Ouais, voilà. Oh non, c'est intéressant ce qu'on dit. Donc à ce moment-là, effectivement, on fait moins 75% de la course, donc c'est la moitié des points qui est attribuée. Alors on a essayé de nous faire croire que c'était parce que on a eu du mal à refaire la grille, etc. C'est bon, si StatF1 ils arrivent à faire le tour par tour sur leur site, je vois pas pourquoi la FOM ou la FIA ou n'importe qui pourrait pas faire le tour par tour. Oui, avec tout l'électronique qui est embarqué, ils peuvent très bien faire, voilà, à chaque tour, lui il est passé premier, etc. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je suis en train de me rendre compte que je vais peut-être pas mettre ce que je voulais mettre en drive-thru. Donc, voilà. Donc, puis en plus, enfin, l'annonce de la victoire de Button, elle se fait comme un cheveu sur la soupe. Même Button qui s'était, tout le monde se rhabillait, hein. Barrichello, il se rhabillait, il mettait des chaussettes propres, il changeait
même un nouveau casque.
Ouais, il a mis un
nouveau casque. Il remettait son ancien casque.
Et Button s'était remis dans son truc. Alors pendant ce temps-là, on avait Kimi qui était parti au stand, et on ne dira pas ce qu'il faisait au stand, parce que c'est un petit supplément à la fin. Et voilà, c'était n'importe quoi. On avait Weber qui se baladait pour aller demander aux autres pilotes ce qu'ils pensaient faire. Hamilton, lui, qui était dans son baquet, qui disait oui.
Ah non, repart. Weber, c'était pas ça. Il faisait le tour pour savoir ce que chacun voulait comme pizza pour le soir.
Tu prends la
pizza pour le soir. Tu veux quoi? Oh, bah moi, je vais prendre une reine.
Donc, course arrêtée, Button vainqueur d'une course assez bizarre.
Finale, ouais.
Est-ce qu'il mérite...
Il a eu de la chance.
Voilà, il a eu de la chance. Il la mérite sur le week-end parce que la Brown Grand Prix a été à l'aise. Mais là, franchement, sur la course, le
départ est terrible.
Heureusement quand même qu'on a Rose Brown qui fait des bons choix parce que je pense que s'il n'y avait pas Rose Brown dans l'équipe... C'est une deuxième ou une troisième place pour Button et c'est sans doute Rosberg ou Glock qui gagne.
Ouais.
Quoique Rosberg, je sais même plus où il a fini lui alors.
Glock, il y a cru. Hein.
Glock, c'est celui qui peut être le plus déçu de l'interruption de course, ça bah, c'est sûr.
Glock et Bourdais. Bourdais qui finit dixième et Glock qui finit troisième. Mais encore, le pire c'est que le résultat de la course, on n'est même pas sûr que ce soit le bon résultat.
Oui.
Il pourrait y avoir des réclamations.
C'est vrai que cette deuxième place, quand même,
la place pas encore à comprendre d'où elle vient. Bah, je pense qu'il a fait un arrêt au stand en moins.
C'est vrai qu'il a fait qu'un arrêt.
Et donc ouais, Glock et Bourdais, lui, eux, ils voulaient, d'ailleurs Bourdais l'a dit, hein, lui, il voulait que leur course reprenne parce qu'ils avaient les pneus qu'il fallait et que à ce moment-là, bah, ils pouvaient espérer gagner des places et Glock pouvait espérer signer la première victoire de Toyota. Donc voilà, on passe au classement de la course. Donc premier Jenson Button sur sa première Grand Prix. Après, alors ce qui est très drôle, c'est qu'on nous donne le temps jusqu'au drapeau rouge.
Ouais.
Donc avec 55 minutes de course, deuxième place pour Nick Heidfeld, à la surprise générale, parce que c'est une course totalement anonyme. Timo Glock troisième, petite troisième place, parce que franchement il méritait mieux.
Ouais.
Même si c'est lamentablement foiré au départ.
Ah, il s'est bien rattrapé.
Ouais, voilà. Yarno Trulli quatrième, qui confirme la bonne forme des Toyota.
C'est clair.
Rubens Barrichello cinquième, bon résultat. Marc Weber sixième, c'est un peu...
Un peu décevant, je
dirais. Décevant. Bon, il y a les circonstances, mais c'est vrai que Marc Weber méritait mieux. On a Lewis Hamilton, qui est septième.
C'est comme en Australie, il passe entre les gouttes.
Voilà, c'est le cas de dire. Et dans le dernier dans les points, Nico Rosberg, qui confirme que Williams, pendant les courses, c'est pas ça. C'est terrible. Williams, ils sont très bons en essai. Ils sont moyens en qualif, ils sont à chier en course.
Ouais.
Parce que là, en plus, enfin, ils mènent la course. Bon, il y a les circonstances, mais quand même, quoi. Neuvième, Felipe Massa. Pareil, qui aurait quand même pu marquer des points, je pense, il aurait pu essayer parce qu'il est pas nécessairement super loin.
Ouais. Bon, on l'a pas vu de la course. Hein.
Voilà. Bourdais, dixième. Fernando Alonso, onzième. Kazuki Nakajima, qui finit la course, douzième. Nelson Piquet, qui finit la course 13e. Et Kimi Räikkönen, qui est classé, parce qu'on a pris les temps au 31e tour.
Ouais.
Il est 4e, il est 14e. Je vois le numéro 4, c'est, ça me perd.
M'a fait peur.
Ce qui est génial, c'est que...
J'ai vu le numéro 4 de sa voiture, ouais. C'est pour ça.
Ils sont tous crédités du 31e tour. Kimi Räikkönen est quand même 2 minutes 22 derrière.
Voilà, ouais, c'est assez vrai. Et donc, dans les abandons, on a Sébastien Vettel sur tête à queue. Donc, pour moi, un tête à queue, c'est pas une raison d'abandon, mais c'est pas grave. Sébastien Buemi, pareil, sur tête à queue. Adrian Sutil sur tête à queue. Les trois, enfin, sur, je sais pas quoi. Les trois ont abandonné au 30e tour. Au 29e tour, c'était Fisichella qui avait abandonné. Aussi pour des raisons de pluie. Et puis, on a parlé des deux abandons de Robert Kubica au premier tour sur casse moteur. Et Kovalainen qui a abandonné au troisième virage, je crois, sur tête à queue. Il y a écrit tête à queue, mais enfin, je sais pas, c'est sorti de piste.
Ah, moi, il sort tout seul, voilà, c'est sorti de piste.
Donc voilà. À signaler donc au classement, on a que la moitié des points qui est attribué. Donc Jenson Button prend 5 points, Nick Heidfeld en prend 4, Timo Glock en prend 6, en prend 3, Jarno Trulli 2,5, Rubens Barrichello 2 points, Mark Weber 1,5, Lewis Hamilton 1 point, Nico Rosberg 0,5.
Et donc je voudrais contrarier mes chers amis de TF1 pour leur dire que la dernière fois où ça s'est passé, c'était en Australie 91, que Prost n'a pas fait puisqu'il a été remercié juste avant de chez Ferrari après avoir traité sa Ferrari de camion. Et donc c'était Morbidelli qui pilotait la deuxième Ferrari avec Jean Alesi et qui a fini sixième d'ailleurs en marquant 0,5 points. Donc voilà, donc encore une fois, nos chers amis de TF1.
Est-ce qu'ils ont dit quoi?
Alors ils nous ont dit que c'était un Monaco, le Monaco de 84.
Ouais, de 84. Wow. Ouais. Là ça les touche directement parce que c'est le fameux Monaco de Prost où il s'est expliqué ça dans sa vidéo, c'est-à-dire que Prost gagne la course, mais en fait il aurait peut-être dû finir deuxième et tout le monde dit que en fait il aurait préféré prendre les 6 points de la deuxième place que prendre les 4,5 points de la victoire.
Oui, tout à fait.
Voilà. Mais en plus, enfin, là, c'était pour conditions de pluie, mais je crois qu'il y en a eu d'autres qui ont été interrompus pour des raisons d'accident, mais je pense qu'on va y revenir avec toi, Shinji. Donc, quelques instants d'ailleurs. On fait juste un détour sur la course des Français. Renault.
Ouais.
Bah, belle course d'Alonso, hein, encore une fois.
Comme d'habitude, hein, ouais. C'est Alonso qui tire l'équipe.
Piquet qui tient, mais c'est Piquet, c'est transparent, donc il y a rien de transcendant dans ce qu'il fait. Ils sont là où ils doivent être.
Pour l'instant, ouais.
Et Bourdais,
c'est un peu dommage parce que bon, on le sait, la Toro Rosso est pas extraordinaire.
Bah c'est quand même une
réponse. C'est vrai que les circonstances de course.
Elle est pas extraordinaire. C'est une Red Bull, hein. Je suis désolé, mais.
Ouais, mais c'est une Red Bull. Enfin voilà, c'est pas le même niveau.
Oui, c'est pas le même niveau, mais quand même, ce qui fait la différence, c'est l'équipe, c'est.
Oui.
La voiture, elle est quand même.
D'accord. Alors. C'est tout l'ensemble qui est moyen.
Voilà. Je suis chiant. Voilà, on a fini sur la course. Donc Shinji, on passe à ta rubrique les chiffres.
Les chiffres du week-end du Grand Prix de Malaisie.
Attention, écoutez bien.
Alors le premier chiffre, c'est 0. On l'a évoqué.
C'est le nombre
pour de Kovalainen. Voilà, c'est le nombre de tours terminés par Kovalainen cette saison.
Ah, je crois que c'était le nombre de points de Ferrari.
Aussi.
On va en reparler. On va en reparler. Ensuite, 1. Alors si on ne compte pas 1950. Brown est la première équipe commencée avec 2 victoires et 2 pôles. Là, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de Wolff qui avait gagné. Bah là, vraiment, Brown rentre dans l'histoire. Alors, 1, c'est le nombre de points cumulés par McLaren et Ferrari. Donc, 1 pour McLaren et 0 pour Ferrari. Donc, c'est le pire début de saison pour Ferrari depuis 1992, pour McLaren depuis 2000. Et pour, peut noter que pour Renault, qui a 4 points, c'est le pire début de saison depuis 2002. Et au contraire, alors, une surprise, c'est le meilleur démarrage de son histoire. Son ancien record, c'était 12 points en 2005.
C'est pour qui, excuse-moi, ça a coupé?
Pour Toyota. C'est son meilleur démarrage.
Ouais.
6. Jenson Button a déjà marqué 6 points de plus que sur les saisons 2007 et 2008 réunies.
Oh, la stat qui fait mal.
Donc 10, je voulais le faire remarquer, c'était les 10 ans du circuit de Sepang.
Alors, déjà.
Déjà, il faut se rappeler que bah, quand Sepang est arrivé, c'était le top. Ça a vraiment marqué une étape dans les circuits de F1.
Ça a été le premier circuit qui a imprimé la marque à ce qui est devenu ensuite Bahreïn, voilà. La Turquie et compagnie.
Mais c'est pas le premier Tilk.
J'ai oublié la Chine, hein, vous avez vu, j'en ai pas parlé.
Ouais. C'est pas le premier d'Hermann Tilk. Non. Le premier, c'était l'Autriche, mais il est plus dans le calendrier.
Et malheureusement, c'est pas le dernier.
12.
Quoique, il paraît que le circuit du Portugal, ouais. J'ai vu un tour embarqué à bord d'une BMW M3. Moi, j'aimerais bien voir des F1 dessus, quand même.
Coup de monde, là, qui veulent des F1 dessus. 12. C'est le 12e podium. Donc, 12e podium et toujours aucune victoire pour Nick Heidfeld. Il égalise le record de Stefan Johansson.
Wow.
14. C'est la 14e fois dans l'histoire de la F1 qu'un pilote débute la saison avec 2 victoires.
Ouais.
Tous sont devenus champions l'année où ils ont réussi.
Oh.
Sauf Fittipaldi en 73, Lauda en 76, Laffite en 79 et Prost en 82. 30. Ouais. C'est le nombre de grands prix consécutifs que Nick Heidfeld est classé. C'est un record.
Non,
31.
Il n'y a pas eu Schumi qui a fait plus mieux que ça. Non, c'est Ferrari qui a un record, mais de voitures classées.
Voilà.
Pas forcément le même pilote, quoi. Excuse-moi de t'avoir interrompu.
C'est pas grave. 31. Donc, c'est le nombre final de tours de ce Grand Prix sur 56 prévus. Donc, ils ont fait 55% de la distance. Alors, la dernière course qui a été interrompue, c'était Europe 2007. Vous vous souvenez, c'était Nürburgring sous la pluie avec Markus Winkelhock. Donc la course s'était arrêtée, mais elle avait repris. Et elle a été terminée. On a aussi parfois des courses qui ne font pas leur nom complet de tour à cause du temps, puisque c'est 2 heures maximum. Donc la dernière fois, c'était Monaco 2008. Donc on avait atteint les 2 heures. Parfois aussi, on ne fait pas le nombre maximum de tours parce qu'il se passe quelque chose au départ. Hein. Et donc j'ai noté Europe 2005, où il y avait eu 2 tours de formation. Et donc un tour en moins. Parce que quand il y a une nouvelle procédure, on enlève un tour. Et la dernière course qui a été vraiment interrompue à cause du temps et à cause des accidents, c'est Brésil 2003. On avait fait 54 tours sur 71. Vous vous souvenez, il y avait eu de graves accidents avec Alonso.
Et la victoire de Fisichella.
Voilà. En effet. Alors, 650. C'est le nombre de grands prix disputés par McLaren à l'occasion de cette manche.
Ah bon ?
Eh ouais. Ah, ça fait pas 700. Donc
alors attends. Si on rajoute la Chine, ça fera 651. 652 à Bahreïn. Ils vont faire 652 grands prix dans toute leur histoire. Ah, ils vont être envoyés, ça c'est sûr. Donc, encore d'autres chiffres ?
J'ai le dernier chiffre.
Ah.
Un chiffre qui n'a rien à voir, ou presque.
Le nombre de kangourous en Malaisie, c'est 0.
Non, c'est 452. Ce n'est pas le nombre de tours qui reste Nelson Piquet avant d'être viré. Non.
Bah, dommage.
C'est la hauteur des tours jumelles Petronas à Kuala Lumpur. Les plus hautes tours jumelles du monde. Le 3e plus haut gratte-ciel du monde.
Donc voilà. C'est tout pour tes chiffres.
Ouais. Tu te rends compte, les tours jumelles, c'est les plus grands poteaux de rugby du monde.
Ah, c'est vrai, il y a un pont au milieu. Alors, au championnat du monde, on a Jenson Button qui est en tête avec 15 points. Mm. Barrichello qui est deuxième avec 10 points. Yarno Trulli qui est troisième avec 8,5 points.
S'il y a des demi-points d'écart à la fin de la saison, on va bien se marrer.
Timo Glock qui est à 8 points en 4e position. Nick Heidfeld, mine de rien, avec ses 4 points glanés cette semaine, est 5e, avec 4 points. À égalité avec Fernando Alonso, 4 points. Nico Rosberg est 7e avec 3,5 points. Buemi est 8e avec 2 points. Weber est 9e avec 1,5 point gagné cette semaine. Et Lewis Hamilton et Bourdais sont ex aequo avec 1 point chacun. On remarquera bien sûr l'absence de...
De Kovar.
Hein?
De
quoi?
Il y a deux équipes qui n'ont pas marqué de points.
De Coma.
De Kovar.
Ah, de Coma. Je me disais de ouais. Coma. Mais Coma, il fait du rally raid. Qu'est-ce que c'est ça, à Coma? Je comprenais pas.
Ben, il y a l'absence aussi de Sébastien Loeb aussi. C'est malheureux.
Pourtant, elle marche bien, la Red Bull, hein.
Ouais.
Non, mais bon, l'absence des deux pilotes Ferrari, c'est,
Et des deux gueules.
Ouais, mais ça, alors, franchement, alors, hey, honnêtement, franchement, est-ce qu'on a quelque chose à foutre de l'absence des deux pilotes Force India?
Bah, à partir du moment, si les deux pilotes Ferrari, ça a du sens.
Force India, ils doivent avoir un record, je crois que ça doit être, 19 courses de record, qui sont pas dans les points, donc ils descendent rien à foutre. Au classement des constructeurs, on a donc Brown Grand Prix qui conforte un peu plus sa première place en tête du classement avec 25 points. On a Toyota qui lui aussi assure sa deuxième place avec 16 points et demi. Belle opération ce week-end pour le constructeur japonais. Et alors là, troisième position, on est déjà largué avec 4 points seulement pour BMW et Renault. C'est des points, on sait que les points en début de saison coûtent cher, donc... commence peut-être à, si Brown Grand Prix tient le coup et si Toyota tient le coup, on se dirige vers un duel. Williams, qui est un peu la déception, 3,5 points. Toro Rosso, 3 points. Red Bull Renault, 1,5 point. Et McLaren Mercedes, 1 point. Ils auront même pas besoin d'être déclassés, ils auront pas le nombre de points suffisant. Deux petites questions là sur que j'ai noté moi sur le classement des championnats. Après tout là, c'est pas une mauvaise opération pour Ferrari.
Le demi Grand Prix, oui.
Ouais.
Ouais, c'est bah clair. Oui, forcément.
Ils font un grand prix. Tu parlais la dernière fois là de l'idée de donner des jokers. Donc en fait, on retirait le plus mauvais résultat de la saison. Bon là, ils foirent leur grand prix. C'est un avertissement. Ils perdent au total que 5 points maximum. Au niveau constructeur, ils perdent que 7 points. Donc ça réduit un peu les pots cassés parce que ils auraient quand même pu se retrouver 18 plus 14. Oh la vache, 32 points. Avec 32 points de retard sur Brown et avec 20 points de retard sur le leader du championnat côté conducteur.
Ouais, tout à fait.
On va pas dire une bonne opération, mais pas une catastrophe non plus. Oui, je me demandais aussi la Brown Grand Prix a montré donc qu'elle était bonne en Australie sur un circuit atypique. Ils ont montré qu'ils étaient rapides sur un circuit un peu plus classique comme Kuala Lumpur. Ils ont montré qu'ils étaient bons sous la pluie. La voiture a l'air plutôt faite pour la pluie. Je renouvelle ma question d'il y a 10 jours.
Oui, c'est une bonne voiture.
Mais peuvent-ils viser le championnat?
Réponse demain.
Ouais, ah oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Non mais en partant du principe que demain les
alors c'est simple, si demain s'ils disent c'est ok, oui, s'ils disent virez-moi ça,
non,
on sait jamais. Oui, mais on sait jamais parce que la voiture elle peut rester bonne, ça sera beaucoup plus dur.
Ça dépend s'ils disent c'est ok mais on vous laisse les points ou c'est pas ok on vous
aussi,
laisse
ouais.
Les points,
voilà.
S'ils enlèvent tous les points, bon, c'est mort
ouais.
Là, ce qui est sûr, c'est que si demain ils confirment, Ferrari peuvent directement tirer un trait sur la saison.
Non.
Ça dépend.
Ah, là, les fuites parlent pour Ferrari d'une introduction d'un double diffuseur pour la Turquie. La Turquie, ouais. C'est le 7e Grand Prix, c'est le tiers de la saison. S'ils font encore des résultats catastrophiques comme ils font, parce que ça va nous prendre au nez, hein, ils vont pas prendre des gros points, ils vont prendre des petits points. Honnêtement, moi je m'inquiète, hein.
Bah, ouais. Tout dépend si les gros points ils continuent à aller qu'à Brown Grand Prix ou bien si effectivement Toyota en chope quand même des gros et pareil pour Williams par exemple.
Ouais, mais c'est pareil, enfin si Toyota prend des gros, Toyota ils ont déjà 16 points et demi d'avance quoi, donc bon, c'est rattrapable. Mais moi personnellement, je vois pas sur la Chine et sur Bahreïn et sur l'Espagne parce que ils ont quand même roulé sur Barcelone et Brown Grand Prix a dominé. Moi sur les trois prochains Grand Prix, je vois toujours Brown devant, je vois toujours Toyota devant. Peut-être que McLaren, Renault s'ils arrivent à introduire non, même Red Bull ils ont même problème en fait. L'histoire de Red Bull et de Ferrari, c'est que contrairement aux autres équipes qui ont adopté des attitudes plutôt timides par rapport au règlement, les Ferrari et Red Bull, dans le camp des équipes qui n'ont pas double diffuseur, sont celles qui ont pris des positions assez extrêmes. notamment du point de vue des suspensions arrière. Et donc, pour eux, ils ont besoin de revoir toute la suspension arrière. Et chez Ferrari, comme Red Bull, ça serait une introduction qu'en Turquie. Et pour Ferrari, on parle d'un budget supplémentaire de 40 millions. C'était 20 millions la semaine dernière, maintenant c'est passé à 40 millions. Donc il y a peut-être du bluff hein, pour essayer d'influencer la décision de la FIA, etc. Mais quand même. C'est tout pour la course pour le championnat. On va passer à notre brique préférée, le drive-thru du week-end. On va essayer de faire bref, même si ça m'étonnerait qu'on y arrive. On va demander d'abord à Shinji de commencer.
Chacun son tour.
Alors moi, c'est pas un pilote, c'est pas une écurie, c'est la FIA. Et encore, je dis FIA, mais Jean de Lobré aussi, la FOM. Il a plu, ça, on pouvait rien y faire. Mais quand même, ça fait 10 ans qu'on vient en Malaisie. Ça fait 10 ans qu'on sait que quand il pleut, il pleut. Ça fait aussi 10 ans qu'on sait que souvent, quand il pleut, alors, il peut pleuvoir à n'importe quelle heure de la journée, hein, ça c'est vrai. Mais quand même, à cette période de la saison, la pluie, elle a quand même une fâcheuse tendance à tomber en fin d'après-midi. Et tu l'as évoqué, pourquoi avoir changé l'horaire du Grand Prix? Alors bien sûr, la course, elle aurait pu commencer à 14h, il aurait pu pleuvoir autant.
Là, c'est pas la FIA qui décide, là, c'est les promoteurs qui ont décidé de s'aligner juste parce qu'ils ont les boules, parce que Singapour, ça a été un succès, que la Malaisie prend 30 ans dans la gueule, mais la FIA, elle est pour rien.
C'est pour ça que je dis non, les organisateurs, quoi.
Peut-être la période auquel a lieu ce Grand Prix qui est mal choisi, hein.
Ouais.
Peut-être, c'est vrai.
Bah, à un moment donné, il était en fin de saison, pourquoi pas. En plus, moi, je trouve que c'est un beau circuit. Il y a souvent des belles courses. En fin de saison, dans la trilogie, il a des beaux circuits à la fin de saison, pourquoi pas. Mais sinon, moi, je le verrais bien, à la limite, comme on va en Chine, comme on va à Bahreïn. On fait Bahreïn, la Chine, et on met ça derrière. De toute façon, quoi qu'il arrive, la Chine, il va aussi flotter, alors.
Ouais.
Donc, toi, c'était contre la FIA.
Chion, quoi.
Voilà, contre l'organisation. Enzo? Je vais me mettre en dernier parce que moi, mon dernier, on n'en a pas parlé. Donc, je vais me mettre en dernier. Et donc, comme le tien, on devine un peu ce que c'est.
Non, je pense que c'était mon dernier SAV parce qu'après ce que je veux dire, vous n'allez plus m'accepter dans votre émission.
Allez, j'ai dit, bouge-toi les oreilles. Moi, je m'en fous, mais toi, bouge-toi les oreilles.
Donc, moi, mon carton rouge, il est sur notre champion du monde 2007.
Tu passes à la compta.
Comment quand je vois déjà qu'au départ, bon, il se fait doubler par Alonso, admettons, mais qu'après, alors qu'il a 20 kilos de moins qu'Alonso, et Yann qui m'en envoie des... Tu me laisses parler, s'il te plaît.
Non, mais il y a un truc que je veux pas que tu dises, je suis obligé, mais okay. Je suis pas prévenu.
non, mais pas de soucis. Quand on voit qu'il a 20 kilos de moins qu'Alonso, parce que c'est vraiment ce qu'on a donné au départ, et qu'il n'est pas capable de le doubler,
ah non, mais sérieux.
Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Je vais modérer un peu quand même mes propos, parce que depuis la course, on a quand même eu des infos, notamment sur son abandon. Mais quand il a abandonné, j'avais l'impression qu'il abandonnait parce que ça le faisait chier de continuer. Et que tout le monde était motivé pour continuer la course parce que c'est des pilotes de F1, les gars ils ont pas la trouille. Bien sûr les conditions étaient dantesques, mais s'il avait fallu repartir, je pense qu'il y en aurait 19 qui auraient repris leur volant. Je pense que le seul qui aurait pas pris, c'était Kimi. Je trouve.
Il avait plus sa combinaison.
Motivé, il allait changer et faire différents trucs dans son stand. Mais franchement, je comprends pas. Déjà l'an dernier, on l'a trouvé un peu éteint. Moi, je l'ai trouvé un peu éteint. Et cette année, j'ai l'impression que c'est sur le même créneau. Et bouge-toi les oreilles, Shinji. Mais quand je vois cette attitude, et ceux qui me connaissent doivent se dire que je suis vraiment malade pour dire ça, mais je le pense sincèrement. Mais vivement 2010 qu'on ait Alonso chez Ferrari, quoi. Parce que au moins ce pilote, à chaque course. Il se sort les doigts, hein, et il y va, quoi. Et là, Kimi, pff, il est autant il était brillant chez McLaren, autant là chez Ferrari depuis 2 ans, je le reconnais plus quoi.
Et ben,
je me dis que Ferrari, ben il devrait commencer à regarder du côté de Vettel, de Rosberg et de petits jeunes aussi qui sont motivés et peut-être pas renouveler le contrat de Kimi en fin d'année quoi. Et clairement quand je vois les courses d'Alonso là qui nous fait à chaque fois, j'en suis à attendre qu'il vienne chez Ferrari, ouais, clairement.
Et comme quoi je plaisante.
Je pensais pas que j'allais dire ça un jour.
Je plaisante souvent sur cette espèce de capacité qu'on a à avoir des idées en même temps ou à penser des trucs en même temps. Ça nous l'a plusieurs fois fait. Et tout ce que tu viens de dire sur Kimi, je suis complètement d'accord et je pense exactement pareil.
Bon.
Voilà, donc qui sérieusement, pour moi Kimi, tout a été fait pour lui. Et franchement, il a plus sa place ni en Formule 1, il me fait penser à ce qu'était Montoya vers la fin.
Mansell aussi.
Voilà, il est plus concerné, il a eu son titre. Moi, je pensais qu'au contraire, il allait dans le challenge. Dans ce qu'il disait dans son discours, j'avais l'impression que apparemment c'était vrai, même si je me disais il y a sans doute Ferrari qui fait des pressions derrière sur le pilote pour qu'il se bouge le cul et rien quoi. Moi quand je le vois, c'est le premier sorti de la voiture. Tu disais sur Melbourne qu'effectivement à Melbourne on avait l'impression qu'il rentrait au stand parce que bah voilà, il n'y avait plus rien à gagner donc il rentre. Moi je vais un peu anticiper sur les pilotes de la course, mais quand je vois que Alonso fait une course où il part de la 9e position avec le plein, il se met 3e alors qu'il a une otite. Moi je me suis fait opérer de l'oreille parce que j'ai eu des otites sur otites. Je sais parfaitement ce que c'est que d'avoir des otites. On en a tous eu gamin, mais moi j'en ai à rabâcher. Et réussir quand on sait que même moi quand j'ai une otite pour me lever de mon lit, c'est une galère parce que voilà, tu perds le sens de l'équilibre. Ce mec là roulait à 250 km/h minimum avec une voiture qui est chargée comme un mulet, avec le KERS qui donne de la vitesse, se prendre je vais utiliser l'expression un peu vulgaire, je suis désolé, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais se prendre les couilles à la main et aller à fond et taper dans les freins au dernier moment, etc., alors que le mec il a une otite, il est pas en forme, etc. Moi je dis ça, c'est grand champion. J'aime pas le bonhomme, Dieu sait que le bonhomme je l'ai décrié. J'aime bien le côté un peu en dehors de la F1 de Kimi, mais sur la piste aujourd'hui pour moi il y a qu'un vrai champion, et c'est pas Kimi. Et ça me fait vraiment chier parce que pour moi Kimi,
ça fait chier de dire ça toi aussi hein.
Ah ouais parce que moi, j'ai redouté pendant des années. Moi, j'ai été élevé au biberon avec Schumacher. J'ai redouté pendant des années le départ de Schumacher. Et Kimi, on peut parler à Shinji. On peut demander à Shinji. Hein. Shinji est un fan de Kimi depuis longtemps. À l'époque où il était chez McLaren. Et moi, Kimi, c'est vraiment venu la dernière saison de Schumi. En plus, il y avait les rumeurs comme quoi il allait venir. Donc, j'ai vraiment découvert Kimi. Le premier titre a fait, et je pense que j'étais un peu bluffé par ce premier titre, j'étais un peu trompé. Et finalement, le côté nonchalant de Kimi, le côté je fais des courses correctes quand ça m'intéresse. Voilà, la voiture est pas si mauvaise que ça, elle a du potentiel, on le voit au nombre de kilomètres parcourus. D'accord, il y a la fiabilité, mais quand même, comme tu le dis, mettre 10 tours à dépasser Alonso qui est plus léger. D'accord, c'est Alonso, mais il faut pas se foutre non plus de la gueule du monde, quoi.
Et tu sais ce qu'on ressent là pour Alonso en se disant finalement qu'il vienne chez Ferrari et je pense qu'on sera derrière lui. Moi je l'ai vécu en 96 quand il est venu chez Ferrari. À l'époque j'étais un fan inconditionnel et je suis toujours de Jean Alési. Ça me faisait mais chier, mais une force qu'il vienne chez Ferrari parce que c'était jeune prodige allemand et j'aimais pas le personnage, un peu comme Alonso actuellement, et voilà, j'ai appris à le découvrir aussi quand il était chez Ferrari, j'ai vu ce qu'il a fait pour la Scuderia, je reconnaissais ses talents de pilote, et là, Alonso, c'est clair que c'est pareil, quoi, j'ai l'impression de revivre la même chose, et c'est amplifié par le fait que justement, à l'heure actuelle, chez Ferrari, on a un Kimi qui est mollasson, et oui, je suis d'accord avec toi, il a plus sa place ici, je pense.
Est-ce que dans ce cas, on peut pas faire un petit peu d'anticipation sur la suite de la saison? Imaginez donc Kimi Räikkönen nous livre une saison dans la lignée de 2007, qu'il est renvoyé de chez Ferrari, et donc dans ce cas-là, qui pour lui succéder? On a parlé d'Alonso. Est-ce qu'on peut pas avoir une hypothèse, je sais pas, Hamilton?
Non.
Oh là, à ce point-là.
Non, non. Il restera chez McLaren tant que McLaren existe.
Ouais.
Et Vettel ou
voilà.
Vettel.
Moi, j'aurais plus, à mon avis, il y aura plus Vettel que Kubica. Mais je pense que des fois, il faut oser des paris de la jeunesse. Bah, Vettel, ça serait le cas, mais peut-être qu'ils auraient dû le faire avant le pari. Ils auraient dû le racheter à Toro Rosso.
Ils ont quand même déjà fait le pari Massa. Hein.
Mais oui. Massa, il est plus tout jeune.
Non, mais il faut quand même se rappeler quand même que Massa, ils ont quand même récupéré Massa à une époque où Massa sort d'une saison chez Sauber catastrophique, où il se fait une réputation de casseur de voiture, et en fait, ils en font un candidat au titre, quoi. Donc,
d'accord, mais Massa a joué le jeu aussi en acceptant d'être pilote d'essai une année, etc. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pilotes, parce qu'il faut reconnaître qu'ils ont tous un ego quand même démesuré. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pilotes qui soient prêts à se remettre en question. On demanderait aujourd'hui à un Nico Rosberg, est-ce que tu acceptes de venir pour faire chez Ferrari pour une année d'essai? Je suis pas sûr qu'il l'accepterait. Et pourtant, j'adore Nico, mais à mon avis, il faudrait peut-être faire aussi un pari comme ça sur un jeune qui a pas encore gagné, qui a du potentiel comme Nico Rosberg, par exemple.
Bah, faire un peu ce qu'a fait Ron Dennis avec Hamilton.
Oui, oui.
C'est-à-dire repérer vraiment, je dirais pas au plus jeune âge, mais d'ailleurs ils ont déjà commencé, à repérer des jeunes pilotes italiens, mais repérer un jeune talent, l'aider à grandir, l'aider à progresser, et puis voilà, le faire rentrer dans l'écurie comme pilote
senior. Ou ce qu'a fait Renault avec Piquet.
J'aurais pris Grosjean comme exemple, mais c'est vrai que des fois ça marche, des fois ça marche pas.
Et voilà. Ouais. Donc voilà, mon carton rouge, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, c'est clairement Kimi, quoi.
Ben en tout cas, on peut ouvrir le débat sur le sujet, sur la dartosphère. Si jamais vous êtes pas d'accord avec nous, ou si au contraire vous êtes d'accord, ou si vous avez d'autres propositions de pilotes, genre Sutil ou un truc dans le genre, le retour de Schumi, n'hésitez pas à laisser des commentaires.
Ah bah ça, on est tous pour.
Et... <le retour. rire> Et si Schumi revenait chez Brown Grand Prix? Oh. Ah, il se fait virer de chez Ferrari quand même. Et c'est pas le seul. Moi, mon drive-through of the weekend, c'est pour Lewis Hamilton. Et c'est pas vraiment un carton rouge pour le weekend, c'est un carton rouge pour le comportement depuis le début de la saison. Au-delà de, il y a l'affaire Hamilton, je pense qu'on en a beaucoup parlé, on va beaucoup en reparler, l'écurie risque beaucoup. Et puis surtout, alors là, c'est ses excuses, larmoyant, puis le coup, j'ai failli partir, arrêter la Formule 1, quitter McLaren, puis McLaren qui rentre dans le jeu en disant, on a failli partir, puis Whitmarsh qui a dit, j'ai failli quitter la F1. À un moment donné, il faut arrêter. Ils sont en train de contribuer à faire de cette affaire une grosse affaire. Ils ont fait les cons, mais maintenant qu'ils assument, quoi, ils ont menti sciemment. On va quand même pas me faire croire que Hamilton, c'est un pauvre bébé qui fait qu'obéir à McLaren parce qu'il a peur de se faire virer. C'est quand même un champion du monde. Faut qu'il arrête de nous faire croire qu'il a dit à la FIA que ce que Dave Ryan lui avait dit. C'est un champion du monde. Il est maître de ses actes. Il a plus rien à prouver. Donc à un moment donné, faut arrêter de faire sa mijaurée. L'image d'Hamilton n'est pas parfaite, on essaie de nous la faire passer pour parfaite, mais elle n'est pas parfaite, on est lucide là-dessus. Mais là, je trouve qu'il enfonce le clou, quoi. C'est bon maintenant, garçon, t'es un champion, arrête de trouver des excuses, assume, voilà, j'ai menti, j'ai voulu filouter. On a beaucoup critiqué Schumacher à son époque, mais Schumacher, il avait, je dirais, entre guillemets, la classe de quand il se garait dans la rascasse, de dire « Ah bon, je me suis garé dans la rascasse, j'ai pas remarqué ». Là, moi, je trouve ça lourd. Donc, voilà.
Ok.
Donc, c'est pareil. Hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, jetez-moi des pommes pourries, plein de trucs comme ça, tout ce que vous voulez. Avant de conclure, on va passer au petit sondage qu'on mettra sur le blog. La semaine dernière, donc, je vous avais dit, c'était l'action de la course. Là, on va passer au pilote de la course. On va chacun désigner qui est notre pilote de la course, un ou deux pilotes, on peut être lâche. Et on peut être large. Pourquoi je dis lâche? Non, large.
Je sais pas.
Et puis on fera un sondage et vous serez invité à répondre, à donner votre avis sur qui est, selon vous, le pilote de la course. Donc je sais pas, on tire à la courte paille. Touf, ça sera toi qui commencera. Ah, Enzo. Mais la courte paille, c'est pas radiophonique.
Donc pour le coup, ça sera pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Non.
Bon, je vais commencer. Je vais mettre Glock.
Glock?
Ouais.
Bah non, j'allais dire pareil.
Bah voilà.
Donc on a Glock, ok, pour Shinji, je note, hein, comme ça. Enzo, toi c'est Glock aussi?
Bah non, on va pas dire le même.
Tu peux dire Lewis Hamilton si tu veux. Je sais que t'en meurs d'envie.
C'est vrai, je peux. Je vais dire Alonso. Je prépare 2010.
Ouais. Alors moi j'étais parti pour dire Alonso, mais comme je me doutais qu'il y avait quelqu'un qui allait dire Alonso, j'avais préparé une solution de secours. Et moi je dirais Weber.
Oh, quelle surprise, Glock, Weber, Alonso.
Weber a fait un super début de course, il m'a bluffé ce week-end, et voilà quoi, j'ai bien aimé le visage de Weber ce week-end. Donc voilà, donc on fera un sondage, et vous aurez donc à choisir entre Glock, Alonso ou Weber comme meilleur pilote de la course sur la Malaisie. Donc, au revoir la Malaisie, et bonjour la Chine.
Bah, le problème, c'est que ça va dépendre de demain.
Oh non.
Non, on va faire comme si demain, la décision, elle comptait pas.
Eh bien, que dire sur la Chine? C'est plein de Chinois. Je les imagine. Oh, des pouces en bas. Pardon.
Ça sera coupé. Hop. 100% uncutted. Un pronostic, au moins.
Allez, un moteur Toyota.
Un moteur Toyota?
En Chine? Ouais.
Ah non, dans sérieusement tu t'engages. Non, moi maintenant dans les
ouais,
dans,
mais voilà,
dans les pronostics, moi je veux un pilote, une écurie et basta.
Kimi Raikkonen, Ferrari, juste pour me faire mentir et pour qu'il me prouve qu'il a sa place.
Moi je mettrai je mettrai Trulli sur Toyota.
Ah bah non, je vais le mettre.
Et bah tu changes. J'aime bien Glock, tu mets Glock.
Bah, je vais mettre Glock.
Donc deux Toyota pour une Ferrari.
Non,
et
ce
sera deux Toyota.
Voilà. J'y crois pas pour Ferrari. Hein.
Ah non, mais moi c'est pareil, hein, j'y crois plus.
Nico Rosberg, William.
Je suis déjà en train de me dire, mais quelle connerie ils vont nous faire.
Nico. Moi je mets Nico sur Williams.
Donc on répète, donc Enzo met Nico.
Oui.
Ouais. Moi je mets Trulli. Et
moi je mets Glock.
Et toi tu mets Glock.
Qu'est-ce que j'ai dit? Moteur Toyota.
C'est alors, vrai. Avant de fermer définitivement l'émission, on va vous proposer un petit jeu, youhou, auquel bien sûr Enzo et Shinji n'ont pas le droit de participer. On essaiera de faire ce... parce que c'est comme ça. On essaiera de faire ce petit jeu à chaque émission. Qui dit petit jeu, dit petit lot de consolation. On va vous poser donc à chaque émission...
De consolation donc à tous ceux qui perdent.
Non, un petit lot pour le vainqueur.
Ah.
C'est d'accord. Pas une consolation.
Ouais, c'est un autre victoire. Voilà. Ouais, mais c'est bon. Voilà. Hey, oh, c'est, les gars, ça fait 2h. Ça fait 2h13 qu'on enregistre. D'accord. Je suis fatigué.
Et qui c'est qui gagne? C'est le plus rapide ou il y a un tirage au sort?
Alors, on fera, je pense, un tirage au sort, histoire que ça dure un peu longtemps le jeu quand même. Et donc, on va vous poser à chaque Grand Prix une question qui est en rapport avec le Grand Prix, mais pas forcément en rapport avec l'action même du.
Au signal, top position, notez le numéro.
Ah, tu fais bien. Et moi, je fais bien les voix du début des années 1910, et toi, tu fais bien les voix top position. Donc,
quelle position était Kimi Raikkonen dans les stands? Oh.
Ah bah tiens, tu vas me faire la question, je vais t'écrire la question, tu me la feras quand je te dirai de la faire. Voilà, je suis désolé, j'écris. Hein. Comment, ouais, vous entendez les coups de massue, c'est moi. Là, à ce moment-là, Enzo est en train de la question. Donc, le but du jeu, on va vous poser une question qui n'a pas forcément grand-chose en rapport avec la course, mais c'est quelque chose qu'on a pu voir pendant la course, qu'on a pu entendre pendant la course, pendant le week-end, donc voilà, faut être un peu attentif. À chaque fois, vous aurez un prix. Le vainqueur sera tiré au sort. Je pense que c'est plus dans l'intérêt d'une participation de tout le monde. Et cette semaine, le prix, ce sera une photo. Une photo d'une Ferrari, issue de mon livre sur Ferrari.
T'as fait un livre sur Ferrari, toi?
Non, pas le mien, celui que j'ai acheté. Donc c'est une photo format 30 cm sur 40 cm que je ferai donc parvenir par la poste à la personne qui donnera la bonne réponse à la question que va nous poser tout de suite Enzo avec sa voix.
Le problème c'est que tous les fans de McLaren ils vont pas vouloir répondre.
Mais c'est pas grave, je leur donnerai une photo noir et blanc, ça y croiront, c'est une McLaren. Donc, question, concours, top position. Allez, Enzo, à toi.
Ok, je me prépare. Vous venez de suivre le SAV de la F1 sur la dartosphere.com. Répondez maintenant à la question top position. Qu'a consommé Kimi Raikkonen après la course? Envoyez un message à qui?
Bah, sur le blog.
Sur le blog de la dartosphère.
Le mec a pas réfléchi
dont
au truc
le
avant.
Site s'apparaît en bas de votre écran. Voilà, c'est un peu spontané.
Sur le blog, vous avez une rubrique contact. Ah bah non, elle est plus là.
Où c'est ballot.
Donc vous aurez de toute façon une rubrique contact hein, pour m'envoyer votre réponse. Donc vous m'envoyez votre réponse. On fera le tirage au sort, je pense, pendant la prochaine émission.
Ouais.
Voilà.
Ouais,
voilà. Puis la personne qui aura gagné m'enverra en mail ses coordonnées et je lui ferai parvenir la photo. Ce sera pas toujours une photo qui sera gagnée. On essaiera de trouver des trucs plus ou moins différents, plus ou moins variés. On essaiera que ce soit toujours en rapport avec la Formule 1. Ça serait bien. Et bien sûr, quelqu'un aura le droit à une canette de Red Bull. Donc voilà. Donc on vous souhaite un bon Grand Prix de Chine ce week-end. Et puis on se donne.
Je ne verrai pas en direct.
Pourquoi tu verras pas en direct?
Je suis pas chez moi.
Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, raconte-nous. Franciscanstavie.com. Vas-y, raconte-nous.
Ça ira.
Bah, t'as une compétition? Non?
Même pas. Je joue pas au golf ce week-end.
Tu vas aller au ski?
Non plus.
Non? Alors?
Il fait 25 degrés. On va pas aller au ski.
Tu vas aller à la plage?
Tape 1. Tu vas aller au golf? Tape 2.
Tu vas aller au ski? Tape 3, tu vas à la plage. Tape 4 et t'en as marre de voir les résultats de Ferrari, donc tu boycottes les Grands Prix. La bonne réponse est 4. Bravo, tu as gagné. Et moi, là, tu sais, je suis en train de penser à tous les gens qui se sont dit « Putain, c'est nul cette émission, allez, je coupe. » Alors qu'ils ratent le meilleur à la fin. Restez à la fin, c'est là où on est nous-mêmes, on est fatigués, on est morts. Donc voilà, donc on vous souhaite un bon Grand Prix, on vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours, on verra. Et puis, bon week-end et à bientôt.
À bientôt.
Bon week-end et bon Grand Prix de Chine à tous.
Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.